48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Eh bien bonjour, bonjour et bienvenue pour le 18e magazine de 48 FM, le second de cette année 2013. Donc aujourd'hui, quatre invités pour évoquer trois sujets. Tout d'abord, Jean-Michel Marquez, président de la CAPEB Lozère, bonjour.
Bonjour.
L'artisanat donc, du bâtiment qui lance un cri d'alarme auprès du gouvernement sur la situation préoccupante de ce secteur. Alain Rousson, secrétaire départemental du SEUNSA. Concernant le comité technique, ce qu'on appelle CTA dans le jargon éducation nationale, et qui doit se réunir le lundi 21 janvier prochain à Montpellier, sur la répartition bien sûr des postes sur le département. Et enfin, Raphaël Langineau et Cécile Petit, qui sont toutes deux donc service civique au sein de l'association Terre Solidaire, qui sont donc venus nous parler du mouvement Territoire en transition en Lozère. Des petits problèmes de...
Ouais, ça va, on va y aller, hein, tranquillement. Et puis voilà, il y a des petits bruits de portable, mais ça va vite se calmer.
Ouais, t'as une grosse voix.
Oui, je suis un peu malade, oui, effectivement. On va essayer de se mettre un petit peu plus en forme pour la semaine prochaine.
Eh bien, ce serait bien. Donc, on va démarrer tout de suite avec... on va démarrer par la CAPEB Lozère, hein, la CAPEB qu'on connaît pour tout ce travail qu'ils font aussi de sensibilisation auprès du jeune public, des enfants, avec une initiation et puis une découverte des métiers de l'artisanat. Artisanat avec Jean-Michel Marquez. Donc, vendredi, les artisans du bâtiment vont manifester normalement dans toute la France. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Ben, vendredi, c'est une mobilisation effectivement nationale. Je crois qu'on va manifester par rapport à un cumul d'actes qui font qu'aujourd'hui nos entreprises sont en grande difficulté. Donc on va manifester sur Montpellier. Les dernières réformes, dont la hausse de la TVA, eh bien, c'est encore quelque chose qui va faire baisser les carnets de commandes. C'est quand même inquiétant puisqu'on passe de 5 à 7% et là on va passer à 10%. Donc 5% de hausse sur des marchés de rénovation qui étaient plutôt des niches pour nous. En Lozère, c'est un peu dramatique pour nous.
Alors, quand vous dites nous, en fait, la CAPEB représente qui exactement ?
La CAPEB représente tous les artisans du bâtiment. Donc, ça fait grossièrement 700 entreprises du bâtiment dans le département.
D'accord. Donc, bâtiment, ça veut dire menuiserie, plomberie, électricité, carrelage ?
Tous les corps d'état du bâtiment. Donc, on part par. Il y a les ferronniers aussi chez nous. Il y a des corps d'état un peu à droite, à gauche, on va dire.
Vous parlez aussi des entreprises, des entrepreneurs ? Qui font l'intégralité d'un bâtiment quand on l'achète clé en main, ou pas ?
Non, on n'a pas de constructeur clé en main chez nous. Nous, on est vraiment dans la défense de l'artisan lui-même, même si on évolue sur des labels, dont le label éco-artisan, qui est finalement un groupement d'entreprises pour réaliser une maison dans des normes et des critères beaucoup plus... disons, perfectionniste que de clé en main, on va dire.
Oui, pardon, excuse-moi Nicolas, mais la notion d'artisan, finalement, ça dépend d'une qualification personnelle, finalement, du chef d'entreprise, non, c'est pas ça ?
Oui, tout à fait. Bon, on n'est pas artisan par hasard. Il y a eu un combat qui a été mené par la CAPEB les dernières années sur les auto-entrepreneurs. C'est aussi quelque chose aujourd'hui qui nous fait aller dans la rue. L'auto-entrepreneur n'a pas obligation de qualification. Un artisan a une obligation de qualification.
Donc il y a une formation derrière, une qualification.
Il y a des années d'expérience, il y a un diplôme qui font qu'il y a une différence entre un auto-entrepreneur et un artisan.
Et donc, voilà. Oui, dans l'auto-entreprise, en fait, on peut être n'importe qui, peut être auto-entrepreneur en plomberie ou zingrée ou n'importe quoi.
Voilà, malheureusement, en 30 secondes ou 3 minutes, disons, sur Internet, on arrive à devenir entrepreneur et ça, c'est un gros souci. Puisque ces gens-là, on ne dénonce pas le système, on dénonce la partie sociale qui est dramatique, puisque ces gens-là cotisent très peu aux caisses. Donc autant à leur caisse de santé qu'à leur caisse de retraite. Donc ça, c'est un petit peu dramatique. Et puis, on est inquiet par rapport aux clients qui les font travailler. Puisque bon, pour une entreprise lambda, on va dire du bâtiment, on a une décennale qui va aller entre 3 et 6 000 euros par an. D'assurance pour couvrir le client, et ces gens-là n'ont pas cette assurance-là. Donc c'est ce niveau-là qui nous inquiète aussi.
D'accord, donc préoccupante alors à la fois sur cette hausse de TVA, à la fois sur un statut plus particulier qui était l'auto-entreprise et qui venait un petit peu, on va dire, manger sur vos plates-bandes et avec des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, conditions techniques et financières et labellisées aussi.
Et sociales.
Et sociales, voilà. Et quoi d'autre ?
Mais, en Lozère,
la baisse du marché peut-être aussi.
Hein. Le marché aujourd'hui est en baisse. Depuis le 1er janvier, on n'a pas un permis de construire qui a été déposé en Lozère. C'est totalement dramatique. Pour un département comme le nôtre, bon, on ne s'attend pas à des chiffres pharaoniques, mais bon, c'est significatif. Donc il y a une baisse de demande. On a vu les architectes qui sont très très inquiets pour 2013. Malgré un maintien, on va dire, des investissements publics, certains marchés, on a un exemple à Saint-Chély, qui est tombé finalement dans l'escarcelle d'un grand groupe. Et on voit arriver 150 ou 200 travailleurs étrangers. Donc ça aussi, c'est un combat qu'on mène. On ne peut pas utiliser l'argent public français pour faire de l'investissement et faire travailler des entreprises d'ailleurs.
Après, c'est le problème de marché. C'est au plus offrant, l'appel d'offres. Alors peut-être, est-ce que c'est peut-être ça ce qu'il faut remettre en...
On a travaillé là-dessus à la CAPEB. On est d'abord un syndicat qui amène des solutions. Donc il y a une des solutions qu'on a amenées qui est de faire signer un pacte aux mairies, qui est finalement un soutien à l'artisanat du département. Et là-dedans, ils s'engagent dans les appels d'offres publics à faire entrer une clause sociale. Cette clause sociale, elle engage obligatoirement l'entreprise à avoir des salariés, ou sur le canton, ou dans le secteur. Donc on l'a vu sur pas mal de marchés. Le chantier de Fontagny amende en un exemple. 8 millions ou 9 millions d'euros d'investissement, une clause sociale. Donc, dans chaque
clause d'insertion sociale, mais qui était un petit peu différente, c'est-à-dire qu'elle obligeait les entreprises à faire de l'insertion sociale par le travail et à passer par des entreprises d'économie sociale.
Oui, enfin, pas obligatoirement, mais oui, en plus de cette clause d'employer des gens, disons, en difficulté ou des jeunes ou former des jeunes, il y avait une clause sociale qui obligeait n'importe quel grand groupe à répondre avec une entreprise locale. Et ça, ça permet de garder les emplois sur le secteur.
Et vous n'avez pas l'impression que quand même les élus, c'est aussi leur préoccupation, on entend parler souvent, mais je pense que n'importe quel élu qui a une petite entreprise, que ce soit, bon, on ne va pas parler de Mende parce que c'est un peu particulier, mais même une petite commune qui a un menuisier, un ébéniste, un plombier et un carreleur, il a tout intérêt à le garder sur sa commune, donc il est bien obligé de le faire travailler.
Je... La démarche est très bien, votre démarche elle est très bien. Pensez à aller chercher une mairie, ça serait bien pour nous. Non, mais je pense qu'il y a un problème de nos élus qui avaient jusqu'à il y a quelques mois pas pris du tout conscience que l'artisanat c'est la première entreprise du département. Il faut arrêter de parler de l'agriculture. Je comprends que l'agriculture soit une partie importante du département, mais le premier employeur du département c'est l'artisanat.
Et effectivement, alors ça représente quoi en termes de chiffres ? Parce que là vous nous avez dit 700 entreprises. En termes de salariés, c'est quoi ? Vous avez des chiffres à nous donner ?
Au niveau de l'artisanat global, il y a 2000 entreprises artisanales dans le département. Ça représente 2,5 emplois directs pour chaque entreprise.
Donc on est à 1500.
On est à 1500, sans compter bien sûr tout ce qui en découle, les marchands de matériaux. Voilà. Donc l'impact est énorme au niveau du département. Donc ça, c'est vraiment un tissu local. On n'a pas un canton de Lozère où il n'y a pas un artisan. Donc effectivement, si les élus demain se rendent compte vraiment de l'impact qu'est de faire travailler le petit artisan du village, on peut passer à côté d'une crise qui s'avère pour le moment très sévère pour nous. Donc on a un exemple parfait, le chantier Mittal à Saint-Chély est l'exemple typique de ce qu'il ne fallait pas faire. On l'a fait malheureusement, j'espère que ça servira de leçon. Mais pour nous, artisans, cotisants quand même, des cotisations qui sont quand même très élevées au niveau des charges. Quand on voit nos charges partir sur des entreprises hongroises, roumaines ou tchétchènes, ça nous pose un souci. Voilà.
Mais c'est vrai qu'après, il reste ce problème de l'appel d'offres. Et
la clause sociale est vraiment le point de mire.
D'accord.
De donner aux élus, parce qu'on comprend les élus. J'en ai encore vu hier au vœu de M. le préfet, qui me disent on ne peut pas falsifier. Oui, je comprends, c'est une loi.
Oui, parce que c'est attaquable. Et puis, il y a eu des cas de jurisprudence qui font qu'on est obligé, après, de fournir...
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, il y a aussi une bonne lecture qui fait qu'on ne donne pas au moins 10 ans. On donne au mieux 10 ans. Et ça a été ce qui a été fait en Lozère pendant des années. Et on ne veut plus le voir. On donne au mieux 10 ans. Donc, le mieux 10 ans, ça peut être celui-là qui a la meilleure note technique, celui-là qui a des emplois locaux, celui-là qui amène un tissu local. Ouais, et ça, c'est important, ouais. Une plus-value.
C'est sûr que c'est une autre façon de considérer le marché. Ce n'est pas seulement de répondre à l'appel d'offres.
C'est pas le prix et le délai.
Voilà, tout à fait.
Mais disons que derrière l'entreprise, il y a les salariés. Derrière les salariés, il y a des écoles, il y a des bureaux de poste, il y a tout un tissu. Et c'est ça qui n'a pas été pris en compte pendant des années. Et maintenant, il faut le prendre en compte.
Mais je crois que c'est d'une façon générale en France, on est tellement, c'est tellement sectorisé, il y a tellement de lobbies que finalement, les lobbies développent des stratégies sans concertation. Il faudrait qu'à un moment donné, on remette un petit peu à plat tout ça. Alors, c'est vrai qu'on nous parle d'une réforme actuellement sur la fiscalité. Je pense qu'elle sera nécessaire et qu'elle devra intervenir effectivement, que ce soit au niveau de l'artisanat comme au niveau du calcul des impôts, des assiettes, etc. C'est vrai qu'il y a une redistribution, une autre façon de considérer l'impôt et les charges sociales sur les entreprises. Mais que ce travail-là, bon, il n'a pas été fait pendant des décennies, que ça ne se fait pas comme ça autour de la table avec 3-4 personnes. C'est un vrai enjeu plus que national, international, parce qu'on n'arrête pas de parler de compétitivité en France et de coût du travail. Alors après, voilà, on ne peut pas... Pour moi, je pense que ça va plus que sur le simple plan local. Enfin, que votre revendication, elle serait, je pense qu'elle est légitime et en même temps qu'elle devrait s'inscrire sur un plan national. Est-ce que ça, c'est fait ?
Ça, c'est fait sur un plan national et européen, puisque la CAPEB siège sur le groupement des artisans au niveau de l'Europe, qui s'appelle le BC. Donc, il y a vraiment une démarche autant française qu'européenne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez marrant, mais nos politiques commencent à prendre conscience de la problématique. Il y a quelques années, vous ne trouviez pas un politique qui ne vous disait pas qu'il arrivait d'une famille d'agriculteurs. Aujourd'hui, dans tous nos politiques, nous disent qu'ils arrivent d'une famille d'artisans. Donc ça nous sensibilise, mais ça ne nous aide pas quand même. Ensuite, dans les 10 dernières années, on a des conditions de travail au niveau des salariés dans le bâtiment qui ont énormément évolué. On a des apprentis aujourd'hui qui sont très bien rémunérés quand ils rentrent chez nous. On a des avantages. On peut faire passer le permis à nos apprentis gratuitement parce qu'on a des aides d'une caisse qui s'appelle la ProBTP. On peut les aider à avoir des prêts, à des taux zéro pour acheter leur première voiture. Il y a vraiment d'énormes efforts qui ont été faits au détriment aujourd'hui des chefs d'entreprise parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise dans le département qui se payent de moins en moins. Il n'est pas normal de voir les chefs d'entreprise qui sortent 1 000 euros de salaire en ayant 2 salariés ou 3 et en travaillant du lundi matin 6 heures au samedi soir 19 heures. Ce n'est pas normal. Quand on crée de la richesse, il faut en récupérer. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a fait énormément d'efforts, nous, chefs d'entreprise, et qu'il est important que tout le monde prenne conscience qu'il faut un retour de bâton à un certain moment.
Vous deviez peut-être nous parler aussi d'un crédit d'impôt compétitivité emploi. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est la cerise... Sur le gâteau, c'est encore une réforme formidable qui arrive en France. Et puis, on s'aperçoit que finalement, ce crédit d'impôt compétitivité peut permettre à des entreprises de développer des choses. Sauf qu'on s'aperçoit que les entreprises individuelles, qui sont la majorité des entreprises du bâtiment, sont radiées de ce système-là. Donc, encore une fois, une réforme pour pas grand-chose et qui va pas amener grand-chose, puisque finalement, ceux à qui ça pourrait bénéficier le plus... Les entreprises individuelles n'y ont pas accès. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui s'ajoute. Et ça, on revient un petit peu à ce que vous dites, c'est qu'on prend peut-être des idées au niveau national, mais on ne concerte pas avec les bonnes personnes.
D'accord. Et en termes de développement sur le département, est-ce que vous avez le sentiment que ça va aller vers des licenciements à moyen terme ou est-ce que les entreprises sont quand même ont suffisamment de trésorerie pour voir venir? Et ma seconde question, c'est est-ce que les banques jouent encore le jeu avec le petit artisanat local?
Ça me fait sourire parce qu'en fait, les banques, ça fait 6 mois, 1 an qu'elles jouent plus du tout le jeu avec nous. C'est de l'utopie d'entendre une banque dire qu'elle joue le jeu avec les artisans.
Pourtant, c'est ce qu'on entend sur
les antennes. Mais c'est bien. C'est les écoles de commerce qu'ils ont fait, ils n'ont pas raté les cours de com. C'est bien. C'est bien. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus des crédits aux entreprises, aux petites entreprises. Et qu'en plus de ça, si par chance on en ouvre un, on prend la maison en caution. Donc on revient 20 ans en arrière. C'est-à-dire que on prend la maison en caution, on demande à l'épouse de signer la caution. Donc c'est quand même un retour social qui est dramatique. Aujourd'hui, les banques n'ont aucune envie de voir les entreprises se développer, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les banques font appel aux découverts autorisés. Donc, elles ramassent des frais monstrueux sur les entreprises.
Ah oui, de 15 à 16 %.
Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est leur jeu principal. Mais il faut pas se leurrer.
Il n'y a plus de prise de risque, en fait. Il n'y a plus d'accompagnement. Mais comment on peut faire ? Est-ce que la BPI, ça peut vous aider, la banque ?
Ben, on
la
l'espère.
Banque publique d'investissement qui a été mise en place, là, en œuvre par ce gouvernement, c'est aussi une alternative ou c'est une espèce de bras de fer un petit peu qui se fait avec les banques pour leur dire ben, finalement, bientôt, on risque de se passer de vous parce que finalement, vous ne servez pas grand-chose sur l'économie locale.
Ben, en Lozère, on a beaucoup travaillé la Banque de France. Résultat néant, puisque même la Banque de France n'arrivait pas à faire fléchir les banques. Donc, je pense que la Banque publique d'investissement, c'est la solution.
En tout cas, c'est une des solutions.
C'est une des solutions, mais je veux dire, une entreprise artisanale ou une petite entreprise, c'est de l'investissement. Si on s'arrête d'investir, c'est qu'on ne voit pas l'avenir et c'est dramatique pour nous. On a des prises de risque, on a toujours eu ça, hein, c'est notre métier qui veut ça, mais c'est de l'utopie de penser que les banques, même au niveau local, prennent conscience de la difficulté de nos entreprises.
Et est-ce qu'au niveau national, par exemple, il n'y aura pas une solution que vous cotisiez, enfin, comme l'ont fait d'ailleurs à un certain moment les enseignants qui ont créé des mutuelles et des organismes pour développer leur activité et en tout cas subvenir à leurs besoins parce qu'on sait que dans l'artisanat comme dans le commerce, la solidarité, ce n'est pas quand même le maître mot, que chacun tire un peu à sa porte. Est-ce que ce n'est pas le moment que vous réfléchissiez, vous, l'artisanat, comme les commerçants, à une marque de solidarité et à vous confédérer? Bon, c'est déjà le cas avec votre syndicat, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution à trouver à moyen terme? Les entreprises qui font beaucoup de moyens, enfin qui ont beaucoup de moyens, mettre à disposition des fonds de réserve, ou je ne sais pas, il y a peut-être des solutions à trouver de ce côté-là.
Alors, pour l'information, c'était réveillé un petit peu avant les enseignants, c'est que la Banque Populaire, c'est nous qu'on l'a créée. C'est les artisans qui ont créé la Banque Populaire en France. Et les artisans et les commerçants, c'est dramatique qu'aujourd'hui, on soit obligé de remettre en cause notre propre structure. On a des fonds qui existent. Il y a des fonds Socama qui existent, qui sont des fonds solidaires que peut avoir la Banque Populaire. Il y a les mêmes fonds qui existent au Crédit Agricole. Mais en allant plus loin que ça, d'abord, les banques ne sont pas très ouvertes à ça. Il faut les pousser pour qu'elles arrivent à faire appel à ces fonds de caution. Parce qu'il est clair, on le sait tous, je veux dire que aujourd'hui, les conseillers qui sont dans ces banques-là gagnent leur vie quand le matin, ils commencent à prendre des frais sur votre compte. Quand ils vous ouvrent une ligne de crédit, ils ne gagnent rien. Les quelques frais qu'ils vont prendre sur le crédit vont beaucoup moins apporter que si on vous ouvre une autorisation de découvert. Donc le problème, il est là. Et je pense que ce qu'on a perdu aussi au niveau des banques, c'est la qualité des gens qu'on avait dans les banques. C'est-à-dire que quand on avait...
Ça vous parlait inconvaincu, effectivement.
On parlait à... Enfin, moi, j'ai un exemple, c'est le mien. Quand j'ai investi à la Banque Populaire à Saint-Gilles-d'Apché, on avait des conseillers qui avaient entre 50 et 60 ans, qui étaient des gens du secteur, qui connaissaient nos entreprises et qui avaient la facilité de nous aider parce qu'ils savaient le savoir-faire qu'on avait, la qualité qu'on pouvait apporter. Aujourd'hui,
ils connaissaient votre entreprise. Ils savent qu'une entreprise, il y a des hauts et des bas. C'est pas...
Et puis, ils connaissaient le secteur. C'était des gens qui vivaient au pays depuis 20 ou 30 ans. Alors, c'est dommage de le dire comme ça, parce qu'on va m'accuser de ne pas vouloir voir arriver des gens d'ailleurs. Si, mais un banquier, il a besoin de connaître le secteur. Le secteur de Mende ou de Saint-Chély, ce n'est pas le secteur de Montpellier ou de Perpignan.
C'est sûr, c'est sûr.
Donc, il y a ce problème. Les banquiers aujourd'hui, il faut qu'ils redeviennent des banquiers. Il ne faut pas que ce soit des conseillers financiers, disons, des commerciaux. Aujourd'hui, on a affaire à des commerciaux en face de nous.
Des commerciaux administratifs qui gèrent. C'est-à-dire qu'ils regardent les comptes. Et
qui gèrent leurs comptes, vous voulez dire?
Oui, c'est ça. Ah,
d'accord.
Et le tableau de bord à la fin de la journée, de la semaine, et qui vendent des
coéquipages, des conventions, des choses comme ça sur lesquelles ils font beaucoup d'argent, c'est sûr.
Tout à fait. Donc ça, c'est une revendication de notre part de revoir arriver des gens qui ont une vraie connaissance du secteur et qui amèneront des financements. Et ça sera beaucoup plus simple.
Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer ce qui va donc se passer vendredi? Donc, c'est à Montpellier, si j'ai bien compris.
Donc, c'est à Montpellier, oui, vendredi matin. Dans un premier temps, on va aller déposer en préfecture une motion pour soutenir l'artisanat. Hein. On a fait un petit tract qui représente un petit peu ce qu'on revendique avec un logo qui dit tout simplement « Vos mesures nous empêchent de construire ». C'est notre logo c'est notre logo pour essayer de sauver ce qu'il faut sauver en France, puisque quand le bâtiment va, tout va. Donc quand le bâtiment va mal, on va voir en 2013. Et par la suite, on va partir de Mende et puis du Monastier, direction Montpellier, pour une manifestation à 14h où on pense regrouper beaucoup d'artisans de la région.
Moi, j'avais quand même une dernière question. C'est que vous n'avez pas le sentiment quand même que les gens ont été pas mal refroidis par l'artisanat aussi, par rapport au prix à pratiquer, qu'aujourd'hui, dans la construction, les gens se sont mis à faire beaucoup d'autoconstruction. Bon, pas seulement pour des problèmes de... Enfin, pas seulement par rapport à votre contexte qui est le vôtre aujourd'hui, mais aussi par un souci d'économie, parce que tout a augmenté, que les matériaux sont extrêmement chers, et qu'en plus, si on rajoute la pose, ça multiplie par deux, en gros, le coût du bâti, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à porter aussi et à sensibiliser nos concitoyens? Donc, par exemple, sur Mende, il y a quand même deux lotissements qui ne sont encore pas complètement finis. Il y a quand même 70 lots à fournir. Donc, il va y avoir, puisque à peu près tout a été acheté, donc tout a été vendu, en tout cas, par la collectivité. Ça veut dire que potentiellement, sur Mende, il y a quand même 70 maisons qui peuvent être construites, plus des grands bâtiments. Il y a quand même là une manne intéressante. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos concitoyens qui vont construire demain?
Il y a plusieurs choses. La hausse des matériaux, c'est bien que vous en parliez parce que personne ne s'en rend compte. La tuile, mettons, a pris entre 6 et 8% de hausse chaque année depuis bientôt 7 à 8 ans.
Le cuivre,
on n'en parle même pas. Mais dans le zinc, oui. Mais la tuile, c'est quelque chose qui est significatif parce que les quantités de zinc sur un toit sont minimes, mais les quantités de tuiles, c'est quand même énorme.
Oui, ça chiffre vite, hein.
Si on compte une hausse de pratiquement 50% du matériau les 8 dernières années, on va dire, on s'aperçoit que les artisans ont augmenté leur prix en gros de 10%. Il y a 40% de la masse d'achat du chiffre qui a été bouffée sur les marges des entreprises. Parce que les prix...
En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'ils n'ont pas... Les
industriels n'ont aucune pitié pour l'artisanat, ne rêvons pas. Je veux dire, les industriels font des sous. Nous, on tente de faire vivre nos salariés et un tissu local. Donc c'est quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec les gros industriels. Donc y a ce côté-là. Après, que dire? On ne peut pas aller dire aux gens, vous vous endettez pendant 30 ans pour faire plaisir à l'artisan du coin. On leur dit juste que des fois, il faut regarder un petit peu...
Non, mais vous voulez dire qu'il y a une garantie décennale, qu'il y a...
Il y a une garantie décennale, il y a aussi le fait que des fois, il ne faut pas regarder que le bas du devis, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en groupant des artisans sur une maison, on arrive à être moins cher qu'un pavillonneur, avec une qualité de prestation qui est bien supérieure. Mais...
Est-ce que ce ne serait pas là un petit peu l'organisation? Parce que moi, j'ai construit une maison, comme beaucoup d'entre nous, et je me suis à chaque fois heurté au problème des délais, au problème des prix, au problème des délais. C'est-à-dire que j'attendais, puis finalement, à force d'attendre, je me suis mis à regarder l'application, comment se met le matériau, puis je me suis dit, finalement, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je vais le faire. Et j'ai le sentiment qu'autour de moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens se mettent à regarder sur Internet avec les moyens de communication qu'on a et d'information, à regarder comment se mettent en œuvre les matériaux et à se dire, mais finalement, on n'est pas plus que les autres, on va bien y arriver. Et c'est ce qui se passe. Donc, on va chercher des matériaux en dehors de la Lozère parce qu'il n'y a pas assez.
Merci Bricot Dépôt.
Voilà, mais malheureusement, c'est ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question à la fois de l'approvisionnement de ces matériaux et, comme vous venez de le proposer, par exemple, d'une concertation entre les corps de bâtiment en disant, écoutez, vous êtes un acheteur lambda, vous voulez faire une maison? Nous, on peut trouver une personne, un médiateur, qui va mettre en œuvre un petit peu tout ça. Ce qui fait que, de fil en aiguille, si vous vous êtes organisé, vous arrivez à dégoter des marchés pour plusieurs personnes, plutôt que chacun se tire un petit peu...
C'est tout à fait ça, le label aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, Eco-Artisans. C'est totalement ça, en fait. C'est de regrouper des artisans sous un label, chacun restant indépendant, chacun ayant sa structure, mais en amenant une offre globale aux clients, autant dans le neuf que dans la rénovation. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que dans le neuf, il faut pas se leurrer non plus. On a énormément perdu le marché du neuf pendant des années, les artisans. Parce que, effectivement, on avait du mal à être dans les délais. Parce que notre département n'est pas du tout attractif au niveau de la main-d'œuvre. Il faut pas se leurrer non plus. Et deux, parce que les prix pratiqués dans le neuf ne pouvaient pas nous permettre de faire fonctionner nos entreprises. Donc ça, c'est une chose. Et dans la rénovation, éco-artisan aujourd'hui est vraiment dans la rénovation parce qu'on s'aperçoit que les clients, il ne faut plus leur dire, il faut juste changer la chaudière. Il faut que le plombier, quand il arrive, il étudie la structure de la bâtisse. Il dit, il va falloir, avant de changer la chaudière, changer les fenêtres, isoler les murs et amener une vraie prestation. Donc aujourd'hui, le label éco-artisan, alors, c'est la solution. C'est la globalité du bâti qu'on regarde. Un artisan qui est éco-artisan ne rentre plus dans la maison en disant « Je suis menuisier, je viens changer les fenêtres. » Il commence à regarder si les murs sont isolés, si la chaudière est en état de fonctionner, et il voit avec ses collègues et il arrive à mener une prestation globale sur la maison. En sachant que ce label va évoluer 2013, puisqu'on va arriver, je pense, à courant d'année, à pouvoir dire à un client « Vous investissez, mettons, 30 000 euros de travaux, et avec l'économie d'énergie que vous allez faire là-dessus, je ne sais pas, je vous donne un délai, mais sur 10 ans, vous aurez amorti tous vos travaux. »
C'est sûr, il y a ça, puis il y a l'orientation de la maison, il y a tout ça, quoi. En tout cas, cruellement, ce que je pense, c'est qu'il y a un manque, de soutien et d'appui aux gens qui construisent aujourd'hui, qui ont 25-30 ans, qui se lancent dans des prêts sur 25, 30, entre 15 et 30 ans, parce que c'est à peu près ça aujourd'hui, et qui manquent cruellement. Il faut aller vite. Parce qu'il y a les doubles loyers, parce qu'il y a les enfants qui grandissent et qu'il faudra payer les études, parce que ça aussi, c'est un vrai souci. Et du coup, je pense que la solution, elle est bien dans le service. C'est bien ce dont on parle très souvent autour de cette table. Le service, il est important. Alors, il est payant, il y a peut-être une plus-value, mais en même temps, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, cette information, en tout cas, n'est pas bien passée.
C'est possible. On y
donc vous avez un gros boulot, quoi. C'est ce que je veux dire.
On a un énorme chantier par rapport à ça, oui.
Alain Rousson, peut-être une petite intervention.
À propos de ce qui vient d'être dit, bon, moi je réagirais à deux niveaux en tant que secrétaire départemental de l'UNSA, qui est bon, une organisation qui a vocation à intervenir à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Je ne peux qu'être satisfait de ce que j'entends concernant, par exemple, toutes les mesures concernant les apprentis, tout ce qui concerne le volet social des entreprises. Bon, nous venons de vivre notamment une période d'élection dans les toutes petites entreprises dans le département, comme d'ailleurs au niveau national. Et nous avons bien senti qu'à ce niveau-là aussi, et pas seulement au niveau des salariés, mais aussi des patrons, il y avait un réel besoin d'informations au niveau des droits, etc. Bon, par ailleurs, je réagirai aussi en tant que secrétaire départemental du syndicat des enseignants. Ce que j'ai entendu concernant la volonté de maintenir un certain nombre de structures sur ce département, notamment la référence aux écoles, bon, ne peut que me satisfaire. C'est vrai que nous sommes tous sur le même bateau Lozère et que si un pan du bateau Lozère commence à s'effriter, forcément, c'est l'avenir du bateau tout entier qui est mis en péril. Donc nous, en tant qu'enseignants, nous avons besoin effectivement qu'il y ait d'abord des élèves dans ce département, donc des familles, mais les familles ont besoin d'un certain nombre de services, ont besoin effectivement d'entreprises, donc tout est lié.
Et puis les élèves auront besoin d'emploi et de stage.
Tout à fait. Donc à charge pour nous aussi, au niveau de la formation, de faire ce qu'il faut pour que les élèves deviennent de futurs salariés qui puissent rester dans ce département en relation avec les entreprises. Mais c'est vrai que les entreprises ont aussi besoin pour que des familles s'installent, qu'il y ait tout un tas de services, et notamment l'école, mais aussi tout un tas de services publics.
Merci Alain. Bon, en tout cas, on...
Oui, non, mais effectivement, bon, il y a des revendications, et on a vu aussi qu'il y avait des pistes un petit peu plus d'avenir et positives qui sont quand même... qui tempèrent un peu le constat, effectivement, de difficultés que vous allez exprimer vendredi. Et puis on aura l'occasion de suivre, de toute façon... tout ça dans les actualités, dans les infos locales de 48FM.
En tout cas, il faut dire à nos auditeurs que ça concerne tout le monde. Hein. Le bâtiment, ce n'est pas simplement les artisans qui travaillent. Ça concerne aussi ceux qui vont demain construire, que ce soit des écoles pour nos enfants, des bâtiments municipaux ou même après des crèches et puis des maisons individuelles. Hein. On a besoin de ces artisans pour la formation dont tu as parlé, Alain, et puis aussi pour le tissu économique, parce que ce sont aussi des consommateurs. Et que tout ça, ça fait notre belle et chère Lozère. On vous remercie d'être
venu. Merci
à vous. Voilà. Avant de faire une petite pause musicale, peut-être...
Un petit jeu.
Un petit jeu.
Voilà, donc un petit jeu pour simplement gagner des places pour le spectacle Malédiction.
Ah oui, Malédiction, Malédiction. Voilà. Alors, en fait, c'est un porte-bonheur ce spectacle, même si ça s'appelle Malédiction, c'est vraiment un porte-bonheur. Un spectacle qu'on a vu il y a 2-3 ans, enfin qu'on a revu dans une nouvelle création. Exceptionnel, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique, c'est exceptionnel. Très très beau travail entre danse et marionnette géante. Vraiment une chose à voir dans le cadre de spectacles recommandés. Un événement national qui vient à Mende la semaine qui arrive, du 21 au 25. Le spectacle donc aura lieu mardi 22 janvier au Théâtre Municipal de Mende. Donc il reste encore des places. Allez-y, c'est à 20h30.
Donc il y a deux places à gagner.
Voilà, et nous on va vous faire gagner deux places.
Vous pourrez aussi pendant toute la semaine, sauf mardi justement, parce qu'il y aura le foot, mais tous les autres, donc lundi, mercredi et jeudi, 48 FM sera en direct du foyer Saint-Ilpide. Vous pouvez venir nous voir, on sera en public. Donc où on parlera justement de ce qui se passe dans le cadre de cet événement spectacle en recommandé. Alors la question pour le jeu d'aujourd'hui, c'est de quel secteur avons-nous parlé dans cette première partie? Je pense que la question n'est pas trop difficile, ça devrait aller.
Donc, vous n'avez pas le droit de jouer, vous.
Pour nous joindre, vous pouvez appeler notre standardiste Ella. C'est le 04 66 31 59 68. Je répète, 04 66 31 59 68. Allez-y.
Et si vous êtes dans une entreprise où il y a de l'artisanat et que vous pouvez être. Vous ne pouvez pas téléphoner pendant que vous bossez, mais que vous êtes devant un micro, vous pouvez toujours envoyer aussi un mail. Donc là.
Enfin, chemin faisant dans la rue ou sur les bancs, à portée de glavio, livre sur le dos. Découvrais l'exil et ses vicissitudes, ce parfum de solitude, ce petit air entêtant. Plus tard, considérant les vies dans le convenu, de phrases sibyllines en sous-entendues. La déchouée m'a mis à flanc de certitude, je me blâme solitude, ce mal que ne guérit nul encore. Si la vie vois-tu à flanc de certitude, ce parfum de solitude, oh la vie à flanc de certitude, oh la vie à flanc de certitude. Que retournent donc les immigrés en immigrés, sur le champ les étrangers en étrangers. La valse au rythme des couplets de feu Jean-Marie, les soufflets de tante Lali, quelle griserie, non, vraiment. L'exil, la vie, vois-tu, à flanc de certitude, ce parfum de solitude, oh la vie, à flanc de certitude, oh la vie, à flanc de certitude. Pour faire semblant, je m'occupe, je chante. L'ivresse de n'être rien, la détresse en moi. Être déjà mort ou bien faire de silence, qu'on m'explique la différence. Depuis 30 ans que j'attends l'exil, la vie, vois-tu, à flanc de certitude, simple question d'habitude, oh la vie à flanc de certitude. Oh la vie à flanc de certitude. Oh la vie à flanc de certitude. Oh ce petit air entêtant.
FM Le Mag.
Et voilà, c'est nous, le retour donc sur 48 FM, deuxième partie de ce mag avec Alain Rousson, secrétaire départemental du SUNSA. Monsieur Rousson, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez de recevoir donc les documents préparatoires au ce qu'on appelle le CTA, donc le comité technique académique, qui doit se réunir donc lundi prochain à Montpellier, puisque c'est l'Académie de Montpellier. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce comité technique? À quoi il sert? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'organismes dans votre corps de métier qui sont des organismes de consultation, mais qui ne servent pas à grand-chose, finalement. Enfin, ça n'engage que moi.
Oui, je reviendrai sur ce point particulier tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais faire un préalable. Parce que nous avons reproché au niveau national, au ministère de l'Éducation nationale, de divulguer des informations dans le cadre de la préparation de la carte scolaire qui va venir, de les divulguer à la presse avant de les communiquer aux organisations syndicales. C'est ce qui s'est passé cette année, nous le regrettons vivement, et nous l'avons dénoncé fortement, à savoir que le ministère de l'Éducation nationale a donné, a communiqué la répartition des emplois dans les académies au journal Le Monde avant de les communiquer aux organisations syndicales, ce qui est pour nous inacceptable. Donc je ne viens pas ici pour faire la même chose et divulguer des informations qui ne sont pour l'instant que des propositions, mais bon, il m'a semblé nécessaire de répondre à l'invitation qui m'a été faite pour communiquer quand même en ce qui concerne la préparation de la rentrée dans notre département, en sachant bien et en répétant encore une fois que lors de cette instance paritaire, donc, qui est le comité technique académique qui va avoir lieu lundi prochain, ce sont des propositions qui vont être étudiées.
Donc ce comité est composé de qui, en fait?
Alors, nous avons dans l'éducation nationale un certain nombre d'instances paritaires composées soit uniquement de représentants de l'administration et de représentants des personnels, soit des instances comme le conseil départemental de l'éducation nationale, par exemple, le CDEN, qui est composé de représentants des élus, maires et conseillers généraux, représentants des parents d'élèves et représentants des personnels. C'est-à-dire il y a trois représentations différentes. Ce sont en gros les usagers de l'école, voilà, pour faire simple, et sachant que ce conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général.
Avec en présence
la directrice académique des services de l'éducation nationale, la DASEN.
Voilà. D'accord. Alors vous nous avez parlé de la carte scolaire, c'est quoi exactement la carte scolaire?
La carte scolaire, eh bien, c'est-à-dire c'est la préparation de la future rentrée, celle du mois de septembre.
C'est-à-dire le nombre 2000. De postes alloués sur le département, voilà. Et leur affectation.
Tout à fait.
Sur les différents villages, les différentes missions, voilà. C'est ça?
Disons qu'il y a un débat interne d'abord à l'éducation nationale, donc entre l'administration d'un côté et les représentants du personnel, et puis après, ce débat se poursuit dans une autre instance qui est donc plus ouverte, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, des élus, des représentants des parents d'élèves et des représentants des personnels.
Donc qui prépare, enfin qui après affecte ces postes?
En ce qui concerne le premier degré, alors la répartition elle est d'abord académique, c'est-à-dire que le ministère affecte un certain nombre de postes pour
par académie.
Donc cette année,
donc au recteur, c'est ça?
Cette année donc le recteur dispose pour l'académie de Montpellier de 117 postes au niveau du premier degré et de 235 emplois au niveau du second degré.
Après premier degré c'est maternelle primaire.
Oui.
Second degré, c'est
collège et lycée.
Donc plus de postes sur le collège et lycée sur l'académie que sur la partie primaire. Pourquoi?
Attendez, c'est des postes en plus ou c'est des postes, c'est le total d'enseignants
Non.
Les dotations sont abondées de postes supplémentaires.
Des postes supplémentaires qui avaient été promis lors de l'élection donc de François Hollande avec les interventions de Vincent Peillon qui avait lui dit je réaffecterai sur le quinquennat X milliers de postes. Alors, on avait parlé de 45 000, 60 000. Enfin, bon, il y avait quand même des engagements qui ont été pris. Là, on voit qu'après donc, mai 2012, donc pour la rentrée de septembre 2013, il y a quand même sur l'académie donc 300... donc, ça fait 352 postes qui sont... donc qui viennent en complément.
C'est ça.
Alors pourquoi avoir fait ça dépend aussi des politiques peut-être nationales et régionales, mais pourquoi avoir ciblé autant sur les collèges et les lycées?
Parce que ça répond à des besoins avec une augmentation des effectifs notamment. Bon, il faut quand même dire que ces affectations de moyens, elles sont faites notamment, pas uniquement, mais notamment après des projections concernant les effectifs, l'évolution des effectifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans les écoles, les collèges et les lycées. Or, on sait que depuis des années, les effectifs augmentent, notamment en collège et lycée.
Pas un transfert des populations du primaire sur...
Voilà. Bon, en plus, pour ce qui concerne l'Académie de Montpellier, c'est quand même une académie où il y a une augmentation très régulière de la population, de façon globale. Et donc, forcément, si la population globale augmente, on retrouve cette augmentation aussi au niveau des effectifs, que ce soit dans le premier ou dans le second degré.
Voilà, parce qu'on a un flux migratoire sur la région Languedoc-Roussillon de plus de 30 000 personnes par an, ce qui est énorme. Et c'est vrai que sur tout le bassin, alors Languedoc-Roussillon, c'est beaucoup dire, parce qu'il y en a un peu moins quand même dans les PO et en Lozère, puisque nous, on a vu les derniers recensements INSEE qui sont un peu difficile à comprendre. Hein, après,
oui, mais il ne faut pas essayer de les comprendre.
D'accord.
Faut le comparer avec...
Il faut zapper, quoi.
Il faut le comparer quand ça sera comparable, c'est-à-dire l'année prochaine, on pourra comparer à 2006. Le problème, c'est qu'on est dans un nouveau système de statistiques,
depuis le
recensement de 99. Et donc, le recensement de 99, en 99, tout le monde a été recensé. Depuis, on recense un petit bout chaque année.
Oui.
Et forcément, chacun des petits bouts peut pas être tout à fait regardé, peut pas être comparé, parce que la tendance qui est donnée sur l'ensemble de la Lozère est faite par rapport à un petit bout qui est recensé. Donc c'est pas forcément représentatif. Il faut le raisonner en période complète. Voilà.
C'est une
question de méthode. Il faut pas se dire c'est le chiffre.
De toute façon, je pense que sur le plan départemental, les chiffres sont quand même lors des C2N, puisqu'on fait des états entre les prévisions et la réalité. Donc à chaque rentrée, on avait prévu par exemple X enfants sur le groupe scolaire, on en a un peu moins. On avait prévu par contre un peu moins à Chabris, on en a un peu plus. On fait des projections aussi par rapport à ce que renvoient les équipes enseignantes, les directeurs d'école. Et les principaux de collège et les professeurs de lycée sur leurs établissements et sur les projections qui apparaissent à leurs yeux, c'est oui. Ça
je voudrais juste apporter une petite précision. Effectivement, encore une fois, les prévisions d'effectifs, l'évolution des effectifs, c'est une des données importantes pour la préparation de la carte scolaire. Donc ça se fait notamment dans le premier degré avec les prévisions des directeurs d'école, mais aussi avec celles fournies par les mairies, parce qu'il y a une double prévision. Les attributions de moyens supplémentaires sont décidées aussi en fonction des orientations ministérielles et
D'accord.
puis académiques sur, par exemple, cette année, pour la préparation de la rentrée 2013, c'est l'effort particulier fait à destination de la scolarisation des enfants de 2 ans, par exemple, ou aussi la volonté de mettre un nombre de mètres supplémentaires par rapport au nombre de classes, par exemple. Voilà. Donc c'est ce qui amène aussi le ministère à répartir les moyens de telle ou telle façon. Voilà. Donc,
est-ce qu'on sait combien globalement il y a eu de suppressions de postes dans l'éducation nationale sous, j'allais dire, l'ère Sarkozy?
Alors, pour le premier degré, il y a eu l'équivalent de entre 24 et 25 emplois premier degré supprimés dans les 5 dernières années.
Sur le département?
Oui. Au niveau des collèges, c'est relativement stable parce qu'il y a eu un gain... En premier degré, on parle d'emploi. En second degré, c'est un peu plus difficile parce qu'on parle d'équivalent temps plein. Parce qu'en premier degré, ce sont effectivement des emplois supplémentaires. On a un poste qu'on affecte dans telle ou telle école ou sur tel service. Dans le second degré, c'est parfois sous forme de bloc horaire. C'est différent.
D'accord.
C'est l'équivalent. On dit l'équivalent de... On parle d'équivalent temps plein. En Lozère, sur les 3 dernières années en tout cas... de mémoire, on a eu une certaine stabilité parce qu'on a eu plus de une année, moins de l'année suivante, donc global, et rien l'année dernière, enfin pour préparer cette rentrée. Donc globalement, ça a été le statu quo. Et on a eu pas mal de suppressions d'emplois en lycée, par contre, notamment en lycée professionnel.
Donc
le chiffre exact, je ne sais pas. Certaines années, c'était aux environs de 10. Globalement, je dirais qu'en Lozère, on a dû perdre... sur les 5 dernières années, à minima, entre 40 et 50 emplois.
D'accord, une cinquantaine d'emplois.
Parce qu'il y a aussi des emplois administratifs, etc.
Oui, oui, ça se fait. Et au niveau national
Alors, au niveau national, on avait évalué, sur les 5 dernières années, 80 000 emplois supprimés pour l'éducation nationale. Effectivement, on est, au niveau, en tout cas, des orientations, dans une perspective totalement différente, puisqu'on est sur un volet de création d'emplois. Globalement, cette année, ça doit se situer aux environs de 6 700, je crois, emplois au niveau national, donc répartis dans les différentes académies.
D'accord.
Donc ça, c'est une inversion qui va être progressive. Bon, on aurait pu souhaiter que...
Qu'elle soit plus marquée.
Bon, il ne faut pas oublier qu'à la rentrée, il y a quand même déjà 1 000 emplois supplémentaires qui ont été attribués aux différents départements.
Ah oui.
Donc les 6 700 et quelques dont je viens de parler, il faut y aussi rajouter les 1 000 qui ont été affectés.
Mais ça fait à peu près...
ça fait entre 8 700 et 9 000 emplois.
D'accord. 9 000 emplois sur 2012-2013.
Oui, et donc est-ce que, avec ces, ce total-là de près de 350 pour l'Académie de Montpellier. Est-ce qu'il y a des chances pour que...
On en ait quelques-uns.
Voilà, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent en Lozère?
Alors, en ce qui concerne notre département, pour l'instant, dans les propositions donc faites par le recteur, je suppose en concertation, enfin je l'espère du moins en concertation avec les directeurs académiques des services, puisque maintenant on ne dit plus inspecteur d'académie, mais on dit directeur académique. La Lozère se verrait attribuer donc, sur les 117 postes du premier degré un emploi supplémentaire. Et en collège, sur les 93 emplois, me semble-t-il, pour l'académie, parce qu'après, les postes second degré sont répartis entre collège, lycée d'enseignement général, lycée professionnel. Donc en collège, la Lozère récupérerait deux équivalents temps plein.
D'accord, ça fait trois postes. Quoi.
Donc ça fait trois postes pour l'instant, pour le département, avec une inconnue encore concernant les lycées. Est-ce que nos lycées, soit d'enseignement général et technologique, soit les lycées professionnels vont récupérer des emplois? C'est trop tôt pour le dire, puisque ça fera l'objet d'une deuxième réunion au niveau de l'académie, vraisemblablement au mois de mars.
Très bien. Une intervention, peut-être?
Non. Bon, quand on voit le nombre de postes perdus et quelques postes qui arrivent, on ne peut que se satisfaire. Donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir maintenir un niveau pour d'études pour nos enfants au maximum, même si, effectivement, d'après les chiffres, on sera en perte de population. Enfin, plus personne sait où c'est condamné, ce qui est un peu dommage. C'est de voir qu'on est même pas, on a vraiment du mal pour arriver à ne serait-ce que se compter. Donc, voilà, nous, de toute façon, dès qu'on peut permettre de garder du service public et l'école et le plus beau des services publics qu'on peut avoir, eh bien, il faut y travailler tous ensemble.
C'est sûr qu'on a perdu depuis quelques années, notamment, je pense, à Pauillac, fermeture de cette école qui était une école emblématique, ne serait-ce que par l'histoire et le travail de mémoire qui a été fait là-haut. C'est vrai qu'on peut, regretter tout ça, parce que chaque fois qu'on ferme une école publique, c'est une partie de la mémoire du village qui disparaît, à travers tous ceux qui ont vécu leur histoire scolaire, hein, et puis ceux qui les ont accompagnés, les élus, etc. Et puis c'est tout un tissu économique, c'est de la consommation, c'est des investissements, parce que finalement on transforme l'école en gîte, mais bon, ça remplace pas quand même des familles qui viennent s'installer. Donc aussi pour vous de la construction. Et c'est vrai qu'on peut regretter des fois des choix qui sont... Bien sûr, il y a des choix à faire. Il y a un budget, il y a des postes à louer, mais est-ce qu'il y a vraiment une concertation sur ces choix-là, sur le plan local?
Disons que, comme ça a été dit tout à l'heure, ce sont des instances qui sont consultatives. Donc effectivement, nous sommes... on nous écoute, ça, on ne peut pas dire le contraire. Je ne suis pas sûr qu'on soit entendu, par contre, puisque effectivement, même lorsque dans le cadre de ces instances, il y a des votes qui ont lieu... et qu'il y a, par exemple, des votes unanimes contre des mesures proposées.
Je crois que c'était, dans le cadre du dernier CDEN, c'était le cas.
Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a des votes unanimes, que ce soit, donc, je répète, des représentants des élus, maires ou conseillers généraux, des représentants des parents d'élèves, des représentants des personnels, votent unanimes contre une mesure proposée, l'administration décide quand même de maintenir la proposition. Donc, voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'utilité de telles instances, mais il me semble quand même extrêmement important qu'elles existent, mais le souci étant de savoir, effectivement, après, de les faire fonctionner correctement. Je crois que le souci, il est surtout à ce niveau-là. Qu'elles puissent fonctionner correctement et qu'elles ne soient pas simplement, je dirais, des chambres d'enregistrement où l'administration nous informe de ce qu'elle va faire et qu'elle ne prenne pas du tout en compte les avis qui sont exprimés.
C'est un peu le ressenti, en tout cas aussi, de la part des élus qui ont l'impression d'être simplement des machines à sous qui doivent refaire une école, ouvrir une classe, mettre du personnel sans concertation. Ce qui représente, après, de façon induite, sur la collectivité, des augmentations de charges ou des diminutions, en tout cas, de redistribution, notamment d'argent pour les associations, parce qu'on est obligé de créer un ou deux postes supplémentaires. Alors ça va être le cas avec cette nouvelle réforme qui va donc intervenir en 2013 avec le changement de fonctionnement des écoles. C'est vrai que ça pose de gros problèmes. Est-ce qu'on a pu avancer un petit peu sur ce programme de refondation d'écoles et où est-ce qu'on en est?
Alors bon, la refondation de l'école, le vote de la loi suit son cours. Bon, sur la question particulière des rythmes scolaires, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les deux dernières instances qui ont lieu au niveau national, que ce soit le Conseil supérieur de l'éducation ou le comité technique ministériel qui a eu lieu là, en ce début du mois de janvier, les avis exprimés ont été majoritairement défavorables au projet tel qu'il est formulé à l'heure actuelle concernant les rythmes scolaires. Bon, c'est un dossier qui est effectivement extrêmement complexe, dont le ministère n'a pas peut-être pris totalement la mesure, ne s'attachant qu'à prendre en compte qu'une partie de ce volet qui est extrêmement important. Certes, l'organisation de la journée scolaire ou de la semaine scolaire, c'est important, mais il ne faut pas aussi ignorer tout ce qui concerne l'organisation de l'année scolaire, la périodicité vacances, période scolaire, mais aussi les programmes, parce que forcément, si on diminue le temps scolaire, il faut aussi penser aux programmes, parce que comment pourrait-on faire en moins d'heures un programme qui a été pensé il y a plusieurs années en arrière maintenant. Donc, bon, et puis aussi, il y a tout ce qui concerne les collectivités à ce niveau-là, les transports scolaires. Bon, nous avons rencontré le président de la commission éducation dernièrement, qui nous a indiqué que cette réforme des rythmes scolaires, ça va avoir une incidence financière non négligeable pour la Lozère, puisqu'il l'a estimé de l'ordre de 300 à 500 000 euros. Donc c'est pour le département de la Lozère.
Ce sont nos autocaristes qui sont contents.
C'est un coût considérable.
Les artisans taxis.
Et les artisans taxis aussi.
Ils sont bien contents en ce moment, les taxis.
Mais en même temps, je pense que cette réforme, elle était nécessaire. On sent bien que dans la société, il y a un problème, qu'il y a une adéquation, qu'il y a un manque d'adéquation, en tout cas, entre l'éducation nationale et son système aujourd'hui, et puis la réalité sociale, économique, le fonctionnement des gens et des familles. Il y a quand même eu de grands bouleversements dans notre société qui font qu'il faut bien, à un moment donné, qu'un gouvernement qui est issu quand même d'une majorité plutôt orientée, on va dire, social-démocratie, qui s'oriente vers une refondation de l'école, en tout cas, qui se pose ces problématiques. Ça, on peut quand même se dire aujourd'hui que c'est nécessaire de le poser. Alors, peut-être sur le fond.
Non, tout à fait. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous, au niveau national, en ce qui concerne mon organisation, nous n'avons pas, comme d'autres, voté contre le projet. Nous ne nous sommes pas abstenus. Nous avons refusé de voter parce qu'il y avait des parties du projet qui nous paraissaient encore floues. Mais sur la nécessité de faire une réforme, par contre, nous sommes effectivement tout à fait d'accord. Pour nous, et nous ne perdons pas de vue que l'un des éléments essentiels de cette réforme, pour nous, ça doit être la réussite des élèves. Alors certes, nous sommes là en tant que représentants du personnel. Nous sommes là en tant que représentants du personnel pour défendre l'intérêt, bien sûr, des personnels. Mais pour nous, il y a quand même un élément qui est incontournable, c'est avant tout la réussite des élèves.
C'est tout à fait. C'est un beau mot de la fin. En même temps, le débat est lancé. Hein. Je pense aussi que c'est une affaire de tous. C'est pas seulement un problème de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les parents doivent être conviés à cette réforme. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi une part qui est faite pour elle. Et puis aussi les mouvements complémentaires de l'école publique qu'on oublie et voilà, qui jouent aussi un rôle assez essentiel dans l'organisation du temps scolaire et du rythme de l'enfant. En tout cas, on aura l'occasion de vous réinviter. On vous remercie d'être venu.
Voilà, on suivra là aussi le dossier dans les infos locales. Et puis je pense qu'on aura peut-être aussi un magazine un peu dédié sur cette question dans quelques temps.
Dans l'éducation en général, je pense que c'est important d'y travailler.
Alors, pas de jeu pour cette deuxième partie puisque les deux places ont été gagnées. Et c'est Sophie Tuféry qui a gagné les deux places.
Bravo Sophie.
Pour le spectacle. Et donc, on fait une petite pause musicale avant de retrouver nos derniers invités.
In the shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels the piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. And the train won't stop. Oh, and no, he took
dead. Silence howling catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train and watch top. Oh, no, it could slow down.
FM Le Mag.
Voilà, dernier petit moment donc avec ces deux jeunes filles, donc Raphaël Angineau et Cécile Petit Bonjour, qui sont donc membres du CCFD. Voilà, Terre Solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le CCFD Terre Solidaire, mesdemoiselles ?
Alors, le CCFD Terre Solidaire, donc c'est une ONG hein, de développement. Qui soutient en fait des initiatives au sud, donc dans les pays du sud. Voilà, donc c'est vraiment.
C'est-à-dire une... quoi, Montpellier, Narbonne.
Non, à travers le monde.
Ah.
Donc par exemple, bon, il y a trois axes d'action. Le premier, c'est en fait des partenariats. Donc le CCFD soutient plus de 450 projets dans plus de 65 pays. Voilà. Et sa philosophie d'action, c'est vraiment de soutenir et non de faire à la place d'eux. Donc c'est soutenir justement des projets de coopératives agricoles, d'organisations paysannes, des associations dans les pays du Sud, par exemple dans les sorties de crise, ça va être en Palestine. Enfin voilà, il y a vraiment... voilà.
Donc concrètement, votre action, c'est quoi ?
Alors,
enfin, soutenir, c'est bien, mais soutenir avec de l'argent, envoyer des chèques, envoyer du matériel, intervenir directement là-bas, faire venir des ingénieurs, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ?
Alors majoritairement, ça va être effectivement du soutien financier, évidemment, et après ça va être plutôt être partenaire technique, quoi.
D'accord, donc le soutien financier se fait par des dons, c'est ça ? Vous récoltez de l'argent, vous faites quoi ?
Oui, c'est ça, en fait le CCFD se positionne en tant que bailleur de fonds.
D'accord, avec donc reconnu d'utilité publique, avec la possibilité de défiscaliser une partie des dons.
Oui, c'est ça.
C'est financé à 90% par des donateurs privés et non pas des dons publics.
Par l'artisanat, tu veux dire ? Les artisans qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Par exemple.
Bah, c'est surtout effectivement les mouvements d'église hein, au départ qui financent le CCFD Terre Solidaire. Mais effectivement,
parce que le CCFD, c'est le comité catholique
contre la faim,
contre
et, pour
la faim et pour le développement.
Voilà.
D'accord.
Et on a rajouté justement Terre Solidaire pour justement appuyer sur le fait qu'elle s'est créée en 1961 au départ voilà, par les mouvements d'église, mais rapidement elle s'est vraiment ouverte et c'est une organisation qui est vraiment ouverte aux catholiques comme aux non-catholiques. Quoi. C'est, voilà.
D'accord. Alors. Vous avez développé un concept qui s'appelle un concept de mouvement de territoire en transition en Lozère. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Alors, nous, on n'a rien développé du tout. Ce n'est pas du tout un concept qui vient de nous. C'est un concept qui vient donc d'un enseignant en permaculture, d'un enseignant britannique. Voilà. Et,
qui s'appelait comment ?
Rob Hopkins. Hopkins, voilà. Et qui donc part du principe que on a atteint le pic pétrolier, le changement climatique est complètement corrélé à nos modes de vie
et de consommation.
Voilà, de consommation des énergies fossiles, voilà. Et que notre économie entière repose sur le pétrole.
Sur des ressources qui sont finies, quoi, en gros. Hein.
Exactement. Et que du coup, il convient absolument de prendre les devants en tant que citoyen pour réorienter justement la production, la consommation, puisque nos gouvernements sont effectivement pas pour l'instant prêts à prendre des mesures radicales. Voilà.
Donc vous parlez de mesures radicales, prendre conscience, développer des initiatives, de quel ordre en Lozère ?
Ok, merci Raphaël. Donc des initiatives de quel genre ? Là, par exemple, nous concrètement, on lance donc un projet donc de territoire en transition pour amener donc tous les acteurs du territoire lausérien à se rassembler, se rencontrer et échanger justement autour des problématiques locales, des problématiques territoriales, donc que ce soit agricole. Ou artisanal, merci. Bref, voilà, toutes les problématiques économiques, sociales, environnementales, culturelles du territoire.
Donc les modes de consommation, comment on peut faire aujourd'hui, du covoiturage, tout ça.
Voilà, pour asseoir plus de résilience au niveau des territoires, plus d'autonomie en fait au niveau des territoires. Et pour ça, c'est justement, ça peut prendre donc la forme par exemple d'une monnaie d'échange locale, d'un système d'échange local, comme il y a eu déjà d'ailleurs. Voilà, exactement, comme le sel. Ça peut être renforcer la création de jardins partagés. Donc pour ça, il y a aussi une dimension plaidoyer à apporter via un collectif de transition. Il y a plusieurs possibilités, renforcer justement des coopératives, la maison des paysans, les AMAP. Enfin, il y a vraiment plein de teintes possibles à donner à cette mouvance-là. Mais tout est à co-construire. Donc voilà, nous c'est plus
J'aime
un appel.
J'aime bien le mot la co-construction. Voilà. Ça c'est un mot qui vous parle. Non.
Oui, ça paraît pas mal. Elles veulent construire. Nous, on embauche encore dans le bâtiment, même si on est en crise, donc ça peut être intéressant.
Est-ce que le bâtiment aujourd'hui est sensible à ces éco-constructions ou est-ce que réfléchit beaucoup ? Parce que c'est vrai qu'on parle de bâtiments traditionnels avec du béton. Est-ce que c'est vraiment traditionnel aujourd'hui, ça ?
Non, plus du tout traditionnel, le béton et le parpaing encore moins. On a un projet là-dessus. Qui va voir le jour courant 2013 à Mende, qui est la maison des artisans, et qui est une maison qui va être basée à peu près sur les produits sud de France, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a mené depuis des années, pas tout à fait sur ce que parlent les filles, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on pense arriver à faire une maison avec entre 80 et 90% de produits locaux.
Bravo!
Donc la démarche est là. Low cost, ça va un petit peu loin. Hein. C'est plutôt régional, on va dire.
Low cost aussi, non ?
Pas du tout low cost. Non, la main d'œuvre, on va trouver de la main d'œuvre lausérienne. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et les matériaux, en fait, en région, on a à peu près tout ce qu'on veut.
Ah oui, donc entre le bois, la pierre.
Donc nous, on est bien garni au niveau du bois, de la pierre, de la tuile avec la lauze, mais on a de la brique. À Castelnaudary, on a de la chaux sur Montpellier. Donc
dans
la maison.
Pas loin, là. Dans l'Aveyron, vers Gaillac d'Aveyron.
Ouais, mais on reste lausérien, mais on reste surtout Languedoc-Roussillon parce que y a une vraie envie de faire une maison Sud de France, parce que Sud de France, c'est une super appellation pour nous. On va pas se cacher. Ça marche très, très bien au niveau des produits Sud de France.
C'est sûr.
Et on aimerait bien voir d'ici la fin de l'année la première maison sud de France en Lozère. Normalement, ça devrait voir le jour parce que le projet est abouti, le terrain est déjà acheté et on va voir ça au Cos d'Auge.
Raphaël ?
Oui, c'est juste en fait pour faire remarquer qu'effectivement, dans tous les secteurs de la société aujourd'hui, on constate qu'il y a cette dynamique de relocaliser les activités, d'aller vers plus de solidarité, plus de respect de l'environnement. Et donc, en fait, dans le collectif de transition, dans ce projet de territoire en transition, c'est aussi un aspect important, au-delà de soutenir des projets comme des jardins partagés, des choses comme ça. Il y a aussi l'idée de fédérer en fait, les initiatives qui existent déjà, et elles sont nombreuses. Et donc,
En
voici une, exactement. Ouais. C'est pour ça que je rebondis sur ça. C'est
il y a
parce
besoin
que,
de communiquer, moi, je pense.
Voilà, et c'est exactement... Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que... En fait, à travers la création d'un réseau ou d'un collectif, peu importe comment on l'appelle, ça va permettre de donner plus de visibilité à ces initiatives. Et donc, à travers ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une dimension de plaidoyer, de montrer que ça bouge, qu'on n'est pas inerte et que dans tous les secteurs, eh ben, y a des choses qui se font. Donc, ça va être plus visible autant au niveau des pouvoirs publics et autant au niveau aussi des individus qui se disent mais oui, il faut changer, comment je peux faire? Effectivement, tous les jours, je regarde la télé, je me dis oh là là, où est-ce qu'on va? Et donc, avec des initiatives comme ça plus visibles, on peut aussi du coup redonner du courage en quelque sorte à des individus qui disent je veux changer, mais je sais pas comment
alors
faire.
Vous recrutez, Raphaël, dans votre association? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas présenté, mais je crois que vous êtes service civique, c'est ça, au sein, oui, de cette association?
Oui, en fait, nous, on est en service civique avec Cécile, donc pendant 8 mois. En Lozère. Et donc
après ces 8 mois, qu'est-ce qui va se passer
Bah justement, c'est pour ça que nous, on est là à durée déterminée. Voilà, donc effectivement, on est là, en transition.
Vous êtes là en transition, bien sûr.
Et du coup, en fait, on a pour objectif de pérenniser cette action. Donc, c'est pas nous qui allons mener cette initiative et porter ce projet.
Il n'y a pas de leader, en fait, dans la transition.
On n'est pas là en tant que leader, on est là pour insuffler le mouvement et l'idée, et essayer de fédérer tout le monde, de faire bouger un peu les choses. Mais l'idée, c'est vraiment de rassembler des gens et des acteurs, associations, individus, peu importe, qui se sentent, qui se reconnaissent en fait dans cette action, et qui, eux, vont porter ce collectif et vont porter ces actions. Donc nous, on n'est pas là pour proposer vraiment en tant que tel, on est juste là pour insuffler l'idée et faire bouger les choses, quoi.
Juste pour donner un exemple, donc il y a plein de territoires en transition en France, hein, vraiment. Par exemple, il y en a un dans le Cantal, donc il y a quand même le collectif Cantal en transition qui s'est créé il y a 1 ou 2 ans. Et par exemple, là, ça prend vraiment la forme d'un regroupement à hauteur d'une fois par mois, donc d'individus comme de représentants d'associations, voire même des entreprises, des élus locaux. Et tous se retrouvent pour, par exemple, fixer des événements pour le mois ou les mois à venir. Il y a, je ne sais pas, un artisan qui va proposer justement des ateliers d'éco-construction. Voilà, d'autres qui vont proposer du compost, enfin atelier de compostage. D'autres plus orientés sur, je ne sais pas, la créativité, création de musique.
Faire un mur en pierre sèche.
Voilà, exactement.
Voilà, le recyclage.
C'est ça. Donc c'est vraiment un projet aussi de rassembler les individus autour d'une synergie, quoi, d'une effervescence, d'un engouement.
Et alors concrètement, comment vous lancez cette co-construction, ce réseau, ce collectif? Comment vous comptez, donc effectivement, vous avez un temps un peu restreint finalement dans le cadre de ce service civique. Et comment fonctionnent les choses? Comment vous allez vous y prendre pour essayer de lancer ce projet?
Alors, il faut savoir, comme on vient de l'expliquer un petit peu, qu'il n'y a aucune forme prédéfinie. En fait, tout dépendra des acteurs qu'on va rencontrer et des énergies et comment ça va se passer entre les gens, qui va être motivé ou pas. Donc pour l'instant, on est au tout début de ce projet. Et donc pour le lancer et pour faire de l'information autour, parce que la mouvance de la transition n'est pas forcément très connue encore. Et donc on fait une projection documentaire à Mende et à Marvejols sur le documentaire qui s'appelle In Transition 1.0. qui est en fait un documentaire qui relate plein d'initiatives de transition un peu partout dans le monde. Et donc on voit concrètement quelle forme ça peut prendre. Et on voit des individus qui s'investissent à fond et voir qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle, à sa petite échelle en tant qu'individu. Et donc c'est plein de témoignages comme ça durant 50 minutes. Donc on voit bien qu'est-ce que la transition à travers ce documentaire. Et à cette occasion, en fait, on organise un apéro dînatoire en musique, dans une ambiance conviviale, pour que toutes les personnes justement qu'on aura invitées ou qui auront reçu l'information par les médias ou les affiches, etc., tout le monde puisse se rencontrer et faire une démarche du coup de réflexion personnelle sur qu'est-ce que la transition, pourquoi ça m'intéresse, comment je peux m'y investir et pourquoi je m'implique, dans quelle place
ont chacun des citoyens, voilà. Parce que la transition, ça marche que si chacun se l'approprie. Hein,
exactement. Il y a vraiment une démarche individuelle et de changements aussi individuels et collectifs.
Alors c'est quand et où?
Alors c'est le vendredi 25 janvier à Mende, donc à la salle des associations, à 18h. Et le samedi 26 janvier à Marvejols, salle du Cheval Rouge, à 18h. Voilà.
Bah, très bien, on vous souhaite en tout cas de réussir de
est-ce
cette
qu'on peut
transition.
Rajouter, est-ce qu'on peut rajouter un petit mot? En fait, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est la dimension de la solidarité internationale. Donc, en fait, la transition, c'est quelque chose de très localisé, c'est à l'échelle d'un territoire, puisque l'idée, c'est de renforcer l'autonomie des territoires pour être plus durable, en fait. Et donc cette dimension de solidarité internationale qui est là le cœur de métier du CCFD Terre Solidaire, du coup notre association, en fait le lien se fait puisqu'on a remarqué en fait que dans une économie mondialisée, finalement tout est intercorrélé et toutes les crises sont systémiques. Donc il y a vraiment un lien du local au global. Et finalement, donc, sans rentrer dans les détails, il y a quand même beaucoup d'actions qu'on a en tant que consommateurs, par exemple, ici dans les pays développés, qui ont des impacts à la fois sur les modes de vie des populations au sud et à la fois sur l'écologie. Si on prend l'exemple du réchauffement climatique, ça concerne tout le monde. Si on prend l'exemple de notre consommation de viande avec du coup des animaux qui sont nourris avec du soja qui est produit en Argentine et au Brésil, où on déforeste la forêt amazonienne, donc ça a un lien avec le changement climatique.
Ne serait-ce que consommer de la viande, déjà, produire un kilo de viande, c'est énorme. Quand
exactement.
On dépense une énergie
exactement.
Mais c'est
là, il y a plein d'exemples comme ça. On voit que finalement, tout est lié et que nous, nos habitudes de vie, en fait, sont complètement liées aux habitudes de vie des habitants au sud, qui, eux, par contre, quand même 1 milliard d'habitants sur Terre souffrent de la faim et que je pense qu'il est temps de prendre conscience que...
Il y a un milliard d'habitants qui souffrent de la faim et on jette pour 2 milliards d'habitants de nourriture par an. Mmh. Il y a un problème, non ?
40% de la production de l'agroalimentaire en France est jetée quand même parce que ça coûte moins cher de produire plus, quoi. Donc c'est quand même hallucinant. Et voilà, c'est un vrai débat de société, mais aussi une prise de conscience individuelle.
Et on produit suffisamment.
On produit c'est suffisamment.
Pas, c'est pas qu'on a
on
des problèmes.
On produit pour 9 milliards d'habitants.
Voilà, on n'est pas en surpopulation. On a suffisamment de nourriture pour tout le monde. Voilà. Donc il y a cette dimension solidarité internationale qui passe par aussi des partenaires au Mali qui sont associés donc sur ce projet, qui viendront une semaine. Oui,
oui.
Les partenaires maliens.
Ouais, du Sahel, qui vont du coup venir une semaine donc du 10 au 14 mars et on organisera un événement à cette occasion pour justement avoir un atelier de réflexion sur les réalités paysannes ici, en Lozère, mais les réalités au Mali et on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Quoi. Voilà.
Et bien on fera peut-être le point justement sur votre démarche de transition à ce moment-là et puis ça nous permettra effectivement d'échanger aussi sur cet événement-là. Simplement, on va conclure cette émission. Simplement rappeler qu'il n'y aura pas de magazine la semaine prochaine puisque nous rediffuserons du temps de midi les émissions spéciales qui s'appellent Radio en recommandé qui seront faites en direct du foyer Saint-Ilpide pour l'opération spectacle en recommandé. Donc vous ne retrouverez pas de magazine mardi, mais vous entendrez cette émission, la rediffusion de cette émission. Voilà.
Une émission spéciale culture,
voilà, hein,
une petite semaine culturelle avec des interventions d'artistes, de professionnels, un petit peu, qui seront à mon avis très très intéressantes.
Voilà.
Eh bien merci à tous, merci d'être venus, et puis on vous dit à bientôt. Cette antenne, c'est la vôtre. Écoutez-vous, écoutez-nous, écoutez l'essentiel. Bonne
semaine. Et n'oubliez pas, on est en début d'année, n'oubliez pas d'adhérer à 48 FM.